哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Aujourd'hui, l'antisionisme. Une histoire juive.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons deux des co-auteurs du livre « Antisionisme, une histoire juive ». Donc, Béatrice Aurès et Sonia Feman. Alors, une des premières questions que je vais vous poser, c'est quelle est l'origine de ce projet ? Vous êtes à trois coordinatrices du livre, vous deux, Sonia, Béatrice et Michel Siboni, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, première question, qu'est-ce qui vous a amené à engager ce travail autour de la question de l'antisionisme ?
Alors, je dirais que d'abord, un ouvrage de
Béatrice.
Un ouvrage de ce type n'existe pas en français. Et dans le contexte politique que connaissait la France au moment où on a commencé à travailler, depuis un moment déjà, on a pensé que c'était très important de montrer que l'antisionisme, ce n'était pas de l'antisémitisme, que ça faisait partie de l'histoire juive. Alors, au moment de la deuxième intifada, il y a eu un peu de rébellion de la part de la société civile française, une révolte légitime qui s'était construite contre l'amalgame des opinions mondiales, en particulier occidentales. Et il y avait par exemple le vote du Parlement européen en 2002, donc au moment de la deuxième intifada, après la deuxième intifada, pour condamner Israël et demander la suspension de l'accord d'association qui fait d'Israël un partenaire économique privilégié de l'Union européenne. Il y avait eu l'avis de la Cour internationale de justice en 2004 qui demandait la destruction du mur de séparation. Il y avait une enquête de diplomates européens sur l'annexion et l'épuration ethnique de Jérusalem-Est en 2008. Et également en 2008, et on peut aussi ajouter l'ordonnance de la CIG de 2023 sur requête de l'Afrique du Sud contre le
Géant. Tu peux préciser ce que c'est que la CIG?
Oui, pardon, la CIG, c'est la Cour internationale de justice. Qui vient de considérer qu'il y avait une possibilité de génocide à Gaza. Donc il y a eu un certain nombre de rapports et donc ce révisionnisme de l'histoire nous a bouleversés et on a considéré qu'il était important de montrer que le sionisme a été refusé majoritairement par les juifs à sa naissance, et même avant, puisque la question s'est posée avant, qu'il soit officialisé, et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le monde juif, donc, était dans son écrasante majorité antisioniste. Bon, ça a un peu changé, malheureusement, après la destruction des juifs d'Europe, mais il est resté quand même un mouvement, comme on le montre dans le livre, un mouvement fort d'antisionistes juifs, même après la Seconde Guerre mondiale.
Alors, je vais compléter en expliquant que...
C'est Sonia qui parle.
Nous sommes des membres de l'Union juive française pour la paix, une association qui se déclare antisioniste parce que nous pensons, après des années d'ailleurs d'évolution de point de vue, nous pensons que la question de la Palestine est intimement liée à la nature de l'État d'Israël, et nous nous opposons à la politique de l'État d'Israël, non seulement à sa politique actuelle, au régime qu'il a mis en place, mais à sa structure fondamentale qui est fondée sur le sionisme. On y reviendra peut-être plus en détail, mais donc c'est ça qui nous anime depuis des années et qui nous a fait réfléchir à la façon de montrer non seulement que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, mais montrer les racines mêmes du sionisme auxquelles se sont opposés de nombreux penseurs, journalistes, écrivains, rabbins, etc., dès le 19e siècle et par la suite. Et pour ça, étant donné qu'en France, il n'y avait pas de travaux d'ensemble sur cette question, on a cherché à réunir des textes écrits par des juifs, et on en a trouvé une cinquantaine, enfin on en a trouvé plus, mais on a voulu quand même limiter, et donc on a recueilli des textes qu'on a parfois traduits parce que beaucoup n'étaient pas en français, on a choisi des extraits et on les a publiés. Alors maintenant, on pourra parler plus en détail du contenu de ces textes, mais juste c'était pour répondre à la première question: qu'est-ce qui nous a amené à faire ce travail par rapport à des pays anglo-saxons où de nombreux intellectuels ont déjà travaillé sur la question? En France, c'était assez peu répandu. C'est pour cela que nous nous sommes mis au travail, et pendant 3 ans, on a préparé cet ouvrage.
Merci. Donc, déconstruire le lien d'égalité qui s'est imposé à la société française entre antisionisme égal antisémitisme, et qui d'ailleurs a encore les beaux jours actuellement. Hein. C'est se dire antisioniste, on est immédiatement identifié comme étant antisémite. Alors comment vous avez procédé en termes de méthode ? Parce que vous nous dites que vous êtes trouvé devant beaucoup de textes, vous en avez choisi une cinquantaine. Comment procéder ? Comment gérer cette masse de textes historiques pour démontrer ce que vous souhaitez démontrer ?
Alors, on a d'abord été aidé par Eyal Sivan, le cinéaste, qui avait déjà rassemblé beaucoup de documents sur l'antisionisme juif. Et donc, on est parti de l'ensemble de ces textes. On avait d'abord... il a fallu les sélectionner, puisqu'on ne pouvait pas faire un livre de 600 pages ou 800 pages. Il fallait faire quelque chose de raisonnable. Et donc, on a d'abord choisi une méthode chronologique, mais ça nous paraissait assez plat et pas très agréable à lire. Donc, on a eu l'idée de le diviser en chapitres qui répondait plus ou moins à des critiques que le sionisme fait à l'antisionisme. Alors le premier chapitre, ça concerne le judaïsme, on reviendra sur les chapitres après. Le deuxième chapitre, c'est le nationalisme. Le troisième chapitre, c'est l'antisémitisme, bien entendu. Le quatrième chapitre, c'est le colonialisme et l'impérialisme. Et le dernier chapitre, on voulait, bon, en ce moment, c'est pas gagné, mais on voulait apporter une note d'espoir. Le sionisme est après. Et il y a pas mal des auteurs qu'on a sélectionnés qui essayaient, qui ont travaillé sur la possibilité de proposer des solutions à la question. Alors, est-ce qu'on l'appelle question juive, question palestinienne ou question palestinienne? Donc voilà, c'était ces 5 chapitres, et je pense que c'est d'une lecture plus agréable. Et pour chaque chapitre, on a fait une introduction, et pour chaque texte, on a fait une petite bibliographie des auteurs du texte.
Et il y a une introduction générale qui est assez longue, qui explique justement le propos du livre, avant de passer à ces différents chapitres thématiques. Il y a des annexes également, on produit des textes et puis une bibliographie qui fait le recensement de beaucoup d'ouvrages sur la question.
Oui, du coup, la lecture de ce livre peut être abordée par thème, parce que c'est un ouvrage conséquent. Hein, quand on l'a sous la main, on se dit « ouf ». Et donc, on peut l'aborder, choisir les thèmes, parce qu'il n'y a pas une continuité d'un chapitre à l'autre. Et donc, à partir de là, on rentre dans une réflexion, d'abord dans une connaissance. Moi, je fais partie des gens qui n'imaginaient pas qu'il y avait autant de textes sur l'antisionisme dans l'histoire juive. Donc, et on peut aborder ça de façon thématique, en fonction de l'intérêt qu'on apporte à tel ou tel aspect de la question.
Absolument. Mais comme les textes sont très, très riches et divers parfois, on peut remarquer que certains auteurs qui sont cités, enfin dont un extrait est produit dans le chapitre, mettons sur la question nationale, pourraient aussi être dans le chapitre sur judaïsme ou sur antisémitisme. Alors, c'est un choix un peu arbitraire qu'on a fait, mais on peut remarquer que ces articles sont assez divers. On a pris des extraits assez courts parce que, justement, on voulait limiter le nombre de pages. Donc, ils sont variables, mais ces extraits de texte font entre 3 et 6 ou 7 pages, ça dépend.
Bien, merci. Alors, au cours de ce travail, vous avez dû rencontrer quelques difficultés, j'imagine. Donc, quelques-unes des difficultés que vous avez rencontrées.
La difficulté, déjà, c'était de faire le choix des textes, parce qu'il y a des très beaux textes qu'on n'a pas pu sélectionner. Et puis, après, il y avait la longueur des textes. Il fallait choisir, justement, comme le disait Sonia, des textes pas trop longs, mais qui montrent bien la relation que les auteurs avaient au sionisme. Donc ça, c'est une des difficultés. Il y a eu aussi la recherche des documents, ce qui n'était pas forcément évident à trouver. Et puis aussi, il y avait beaucoup de documents en langue étrangère, donc on a dû les traduire. Alors on a fait un petit pool de traducteurs internes à l'UGFP ou externes à l'UGFP qui nous a permis donc de donner accès en français à des documents qui n'existent pas en français.
Et bon, cette difficulté, bon, on y a fait face, ça n'a pas été insurmontable, mais ça a pris du temps. C'est pour ça qu'en fait, on a travaillé, notamment pendant 3 ans, sur tout ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que certains textes, après, quand on a voulu trouver comment payer les droits d'auteur ou être exempté des droits d'auteur, ça a été des recherches d'ayant droit pour les auteurs qui sont morts. Ça a pris du temps. Ça a été un des travaux, si on peut dire, une des choses qu'on a rencontrées dans ce travail qui ont été un peu difficiles. Et puis, il faut dire qu'il y a des... Enfin, on n'en a pas rencontré beaucoup, mais il y a quelques auteurs qui ont pu changer d'opinion. Et comme un, notamment, Norman Finkelstein.
Weinstock.
Nathan Weinstock, qui est un des auteurs dont on a trouvé un texte très intéressant, mais qui datait et qui a refusé, enfin qui refuse de façon générale maintenant que ses textes antisionistes soient publiés parce qu'il a récusé son opinion antisioniste. Et ça, d'ailleurs, on peut noter au passage que c'est quelque chose qui a quand même marqué un certain nombre de gens. Par exemple... Après la Seconde Guerre mondiale, quand la création imminente de l'État d'Israël s'est posée, ça a été encouragé par un grand nombre de gens, par des pays qui étaient bien contents de pouvoir penser que tous les Juifs iraient en Palestine et qu'ils seraient un peu débarrassés de leur présence, mais aussi par des personnes, y compris des personnes qui étaient antisionistes avant le génocide des Juifs et qui se sont émues, à juste titre, émus de ce génocide, et qui ont pensé que là, la solution, le refuge pour les Juifs, là où ils seraient enfin en sécurité, c'était la Palestine. Et ça n'a pas été le cas, on le voit encore aujourd'hui, mais bon, ça a été une croyance. Et ça fait qu'un certain nombre de gens ont évolué, et on voit, y compris dans les textes qu'on a produits, alors pas ceux de Nathan Weinstock, mais d'autres, on sait que ce sont des gens qui ont évolué et qui se sont beaucoup rapprochés, enfin beaucoup ou un peu rapprochés du sionisme, qui ne sont plus, se déclarent plus vraiment anti-sionistes.
Oui, par exemple, 1967 a été une bascule
aussi
pour des personnes qui étaient peut-être non-sionistes ou pas vraiment anti-sionistes militants, mais qui, après 1967, sont devenus sionistes. Au contraire, il y a, par exemple, après Sabra et Shatila, il y a des gens qui sont devenus antisionistes. Il y a eu deux basculements
C'est ça, la question que je
voulais poser. Sabra et Shatila, c'est un massacre de Palestiniens dans le camp de réfugiés de Shatila, qui est au Liban, qui a eu lieu, qui a été effectué par des milices chrétiennes libanaises pendant la guerre du Liban, sous le couvert et le commandement, on pourrait dire, la protection de l'armée israélienne.
Donc, sur les difficultés, mais peut-être une autre, toujours en termes de difficultés, est-ce que vous avez eu des réactions violentes, agressives par rapport à votre initiative ?
Non.
Pendant qu'on faisait le livre ?
Oui, non, mais même...
Depuis, non.
Ah non, mais là, je pensais qu'on n'était pas encore à la publication. Non, on en parlera après des réactions. Mais les difficultés, ça a été aussi de trouver un éditeur. Oui. On l'a proposé à un certain nombre d'éditeurs qui l'ont refusé pour diverses raisons.
Notamment pour les droits d'auteur. Ils ont pris le prétexte des droits d'auteur.
Oui, et finalement, c'est donc Sileps qui a accepté et qui a fait ce travail avec nous de recherche pour les droits d'auteur, des ayants droit.
Alors justement, en termes de diffusion, dire que la librairie Côme de Millau a reçu un petit stock de ce livre, Antisionisme, une histoire juive, et que donc vous pouvez l'acquérir à la librairie Com de Millau. Parce qu'on peut le dire, ce livre, on va rentrer dans la diffusion, a eu un franc succès. Puisque lorsque nous avons voulu disposer de quelques exemplaires, il y avait rupture de stock. Bon, à nouveau, il y a une réédition qui a été faite. Alors, actuellement, comment se diffuse ce livre et quel accueil a-t-il ?
Alors, la diffusion, c'est par le diffuseur de Sileps, qui est Gallimard. Donc, a priori, il y a une diffusion sur toute la France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Il se vend bien. Les critiques qu'on a eues ont été très bonnes. Pour un livre de sciences humaines un peu pointu comme celui-ci, il s'est vendu à plus de 1000 exemplaires. Et puis, quand on fait des présentations, il est très bien. Les gens écoutent très attentivement parce que ça constitue un peu un outil. Oui. Dans la période où nous sommes, ça donne des arguments pour montrer que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Et donc, c'est important dans la période de pouvoir avoir une analyse politique de la situation. Et ce livre donne un outil à travers des textes d'universitaires. Ce n'est pas des textes de militants, hein, ce sont des textes d'universitaires, de chercheurs, de sociologues.
Et d'autres intellectuels qui sont répartis sur toute la période qu'on a concentré entre la fin du 19e siècle et 2020. On a arrêté à 2020, donc tous les textes sont de cette période. Et comme on a choisi un ordre thématique pour les chapitres, ça ne suit pas à l'intérieur des chapitres, ça ne suit pas tout à fait un ordre chronologique. Donc on trouve des textes anciens, des textes plus récents, bon, qui sont un peu les uns après les autres, selon la façon dont ils se positionnent sur chaque thématique de chapitre.
Il faut noter que le premier texte date de 1885, c'est-à-dire d'avant le premier congrès sioniste mondial, qui date de 1897. Mmh. Donc la question d'un retour en Palestine se posait déjà. Et les juifs du monde entier, à l'époque, considéraient que ce n'était pas la solution.
Voilà, quand tu dis la question d'un retour éventuel en Palestine se posait, est-ce que c'était à une échelle large ou seulement une élite intellectuelle juive qui s'intéressait à cette question-là ?
C'est Herzl qui a poussé le mouvement et a créé effectivement le sionisme. Mais au début, il ne pensait pas à la Palestine. Hein. Il pensait à l'Ouganda, à l'Argentine, parce que c'était un laïc. Hein. C'est des laïcs les premiers qui ont eu l'idée du sionisme. Ce n'est que donc au 7e congrès...
D'abord au 5e congrès de l'Organisation sioniste mondiale, il y a eu un retour sur l'argument biblique. Ah. Et c'est seulement là qu'on peut parler de retour. On peut pas parler
de... C'est quelle
date ? 1901. Oui. On ne peut pas parler de retour en Palestine. Enfin, nous, on conteste retour en Palestine parce qu'on conteste, et c'est contesté par beaucoup d'auteurs de ce livre, on ne peut pas considérer que les Juifs ont été... exclus de la Palestine il y a 2000 ans et qu'ils y reviennent. Il y a eu des mouvements de population et plusieurs textes l'expliquent très bien dans le livre. Ça a été un mouvement général de dispersion et c'est pour ça que certains auteurs parlent d'un peuple diasporique, donc dans la dispersion. Et alors, donc ça, c'est pour dire qu'on ne peut pas parler de retour des Juifs. Or, c'est ce qu'a fait le sionisme, puisque, comme disait Béatrice, c'était des laïcs qui ont choisi pour lutter contre, pour protéger les Juifs d'Europe centrale et orientale, qui étaient sous le coup des dictatures tsaristes et autres régimes qui les victimisaient énormément.
Et puis qui subissaient des pogroms aussi.
Ben oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, le premier argument pour créer un mouvement des populations juives vers un autre pays, c'était purement laïque contre l'antisémitisme. Et puis, ils ont compris, les fondateurs du sionisme, qu'il fallait se servir de la Bible pour une grande partie de la population juive. La population juive était majoritairement religieuse à l'époque, ce qui n'est plus le cas, ou moins. Donc, ils ont pensé que l'argument biblique était important et qu'il fallait reconstruire l'histoire, comme s'il y avait eu une parenthèse pendant 2000 ans, pendant laquelle les Juifs n'étaient plus dans leur pays de Palestine et qu'ils allaient retrouver leur pays. Et ça, ça a marché. C'est ça qui a, qui a commencé à faire une adhésion au sionisme. Et donc, c'est dans le 7e congrès, deux ans plus tard, en 1905, que le choix de la Palestine a été établi par rapport à d'autres hypothèses, comme disait Béatrice, l'Ouganda ou autre chose. Donc là, ça a commencé à se consolider.
C'est finalement le recours à la dimension biblique religieuse qui a fait passer ce discours d'un retour en Palestine.
Absolument. La Bible a été utilisée, comme on dit, comme un cadastre pour justifier que c'était leur terre, enfin la terre du peuple juif. Enfin bon, on peut, pour chacun des mots, on peut revenir dessus, mais... eux, ils considéraient que c'était la terre d'Israël, Eretz Israël, qui était le lieu historique et nécessaire du peuple juif.
Mais les sionistes laïcs du départ sont rentrés dans ce discours-là ou ils sont restés sur une posture laïque?
Non, ils l'ont utilisé.
Sont les mêmes qui l'ont utilisé.
Il y a une boutade qui est dite en Israël par les laïcs qui disent « Dieu n'existe pas, mais il nous a donné la Palestine ».
Ah oui, carrément. Ouais, c'est clair. Bon, après ce retour historique rapide, une des questions qu'on peut se poser, à laquelle vous avez en partie répondu, c'est l'articulation entre sionisme et création d'Israël. Là, vous l'a donné, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à ajouter.
Ce qui est important, c'est de montrer que l'État d'Israël tel qu'il existe et tel qu'il a été créé en 1948 fait suite à toute cette période de maturation du sionisme et qu'il est fondé sur cette idéologie. C'est le sionisme qui fait exister Israël et c'est devenu maintenant un pays dont on peut dire, pour certains, on peut dire qu'il est fascisant ou fasciste, enfin à la lumière...
Théocratique,
lumière des événements actuels, on peut dire, c'est critique, mais... Ça ne suffit pas. Il faut remonter à l'histoire et voir comment c'est cette idéologie sioniste qui a permis que se crée un pays qui a été prétendument faire fleurir le désert, occuper une terre, un peuple sans terre pour une terre sans peuple. C'était le slogan. Le peuple sans terre, c'était soi-disant les Juifs. Pour une terre sans peuple, ça voulait dire qu'on considère que les Palestiniens, qui sont les autochtones de ce pays, ne sont pas un peuple. Et c'était effectivement le discours des présidents, enfin, et de toutes les autorités israéliennes, de dire que les Palestiniens n'étaient pas un peuple, qui se sont formés comme un peuple quand ils ont vu qu'ils étaient menacés par Israël. Donc il y a toute une polémique là-dessus. Mais le démarrage, c'était créer cette idéologie qui permet, en fait, de coloniser une terre sans se soucier du moins des personnes qui sont là, des groupes de population qui sont les habitants historiques de la Palestine.
Alors, il y a un auteur qui est dans notre livre qui s'appelle Leopold Weiss et qui s'est converti à l'islam sous le nom de Muhammad Assad, qui était un Autrichien et qui a voyagé dans les années 20 du siècle dernier en Palestine et qui a montré que ce n'était pas un désert, qu'il y avait de l'agriculture, qu'il y avait une vie...
Une vie sociale,
une vie sociale et tout, voilà. Et donc ça, c'est un des points qui montre que tout le discours sioniste est faux. Il y a eu pas mal de témoignages là-dessus, donc le discours sioniste est faux. Et puis il y a eu ce qu'on appelle le groupement Brit Shalom, qui était aussi fait de personnalités qui ont émigré en Palestine d'Allemagne, telles que Martin Buber, Gershom Scholem, pour citer les plus connus, et qui voulaient vivre... qui voulait tenir compte des autochtones, des Palestiniens autochtones, arabes et chrétiens,
Et ça veut dire qu'il y a eu un mouvement qui était sioniste, parce que, oui. Enfin, sioniste au sens où il disait, bon, ben, pourquoi pas que des Juifs aillent coloniser la terre en Palestine, mais en partageant, dans une idéologie du partage, avec la population présente. Et il y a eu un débat très houleux au sein du mouvement sioniste dans les années 20, où cette tendance, disons, pacifiste, partageuse, qui prônait un État binational, s'est faite...
A rencontré
l'opposition très forte d'une aile qu'on appelle révisionniste, qui était menée par un personnage qui s'appelait Jabotinsky, qui était un proche de Mussolini, mais qui était un juif présent en Palestine, et eux qui voulaient, alors lui, éradiquer la population arabe complètement. Et finalement, à partir du milieu des années 20, c'est une tendance intermédiaire portée par des gens dont les noms sont connus, comme Ben Gurion, Golda Meir, qui l'a emporté sous un jour progressiste à l'époque et reconnu comme voulant faire des efforts vis-à-vis des Palestiniens. Mais en réalité, c'était juste pour arbitrer entre les deux tendances extrêmes. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir et qui ont amené la création de l'État d'Israël. Et je voudrais ajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création de l'État d'Israël comme émanation du sionisme. Il nous semble que c'est quelque chose de très important à comprendre, y compris parmi un certain nombre de gens et de groupes qui critiquent, d'autant plus maintenant, la politique israélienne, mais qui critiquent surtout l'occupation des territoires de Gaza, de Jérusalem-Est et du plateau du Golan depuis 1967. Or, ça n'est pas ça seulement le problème. Le problème remonte plus loin et c'est ce qu'il faut comprendre parce que sinon, on en reste à quelque chose qui est considéré comme l'occupation, les colonies illégales au regard du droit international, ce qui est vrai. Mais ça ne suffit pas. Et ce qu'on pense, c'est qu'il est important de comprendre justement comment le sionisme a pu amener à la création d'un État qui, premièrement, a ignoré la présence et la représentativité des autochtones qui étaient là, et deuxièmement, qui, dès le début, s'est engagé dans un processus qui ne pouvait mener qu'à la guerre permanente.
Oui, parce que le sionisme, c'est un système, une idéologie d'exclusion et d'apartheid, oui. Par définition, puisqu'ils veulent que la terre n'appartienne qu'aux juifs. Donc forcément, dans une politique de ce type, et dans une idéologie de ce type, on ne peut gagner que par la violence, surtout s'il y a d'autres, des autochtones qui ne sont pas juifs sur la terre, qui est colonisée.
Oui. Et actuellement, dans la société israélienne, ce courant anti-sioniste, est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il est vigoureux?
Il est quasi inexistant.
Ce sont les anticolonialistes. Hein. Ils s'appellent pas anti-sionistes.
Il
y a des anti-sionistes aussi. Mais enfin, c'est plutôt, ils se présentent comme anticolonialistes pour la majorité d'entre eux. C'est une peau de chagrin.
donc à l'intérieur de la société israélienne actuellement, les courants critiques, ouvertement critiques par rapport à l'identité sioniste d'Israël, mais surtout à la pratique actuelles sont peu présents.
Ils sont très minoritaires parce qu'on a beaucoup parlé d'un grand mouvement de ces derniers mois, enfin avant le 7 octobre, oui. De manifestations géantes qui ont eu effectivement lieu en Israël pendant plusieurs semaines ou mois peut-être finalement, qui contestaient une réforme de la justice visant surtout à ce que Netanyahou échappe au jugement qu'il attend pour corruption, mais plus largement à minorer le rôle de la Cour suprême et donc à la soumettre à l'autorité politique. Et dans tous ces manifestants, parmi tous ces manifestants et dans toutes ces manifestations, il n'était pas question des Palestiniens, à part de temps en temps un petit groupe qui arrivait et qui se faisait éventuellement casser la figure, un petit groupe avec drapeau palestinien ou sans drapeau, mais agitant quand même, présentant le problème des Palestiniens. Ce que les Israéliens ignorent et veulent ignorer dans leur grande majorité. Et les sondages dont on entend parler à l'heure actuelle montrent qu'il y a une majorité d'Israéliens qui veulent que la puissance politique et militaire d'Israël éradique les habitants de Gaza. Et
c'est la liquidation de la Palestine. Oui. Mais c'est quand même un peu terrible l'évolution de cette société. Le ciment qui pourrait expliquer cette espèce de point de vue homogène, en tout cas largement homogène, s'inscrit dans le socle religieux.
Non, pas du tout. C'est la propagande, c'est l'éducation. Le socle commun, c'est la haine des Palestiniens qui est inculquée dès l'enfance. Une éducation raciste.
Et qui est confortée par l'armée, puisque tous les jeunes, c'est bien connu, à 18 ans, les filles pendant 2 ans, les garçons pendant 3 ans, font leur service militaire et sont appelés après, jusqu'à l'âge de 40 ans au moins, comme réservistes pour faire des périodes militaires régulières. Et en ce moment, on sait que tous les réservistes ont été rappelés. Donc c'est une population qui est très militarisée, c'est un pouvoir qui est complètement militaire, même s'il se prétend, enfin il se donne comme civil. L'armée joue un rôle, l'armée et les services de renseignement, on l'a vu dans beaucoup d'événements de l'histoire d'Israël, sont au pouvoir.
Et de fait, ce qu'on appelle les refusniks, c'est-à-dire les jeunes qui refusent de faire leur service militaire, notamment dans les territoires occupés, sont très peu nombreux. Il y a un recul, semble-t-il.
Un recul, je ne sais pas. Parce que là, il y a quand même quelques-uns qui ont défrayé la chronique depuis le mois d'août. Il y avait eu au mois d'août dernier, donc avant les événements d'octobre, des élèves en fin de lycée qui avaient signé, ils étaient à peu près 200, un document disant qu'ils ne seraient des réfugiés, qu'ils ne feraient pas l'armée. Bon, c'est quand même un engagement très fort, puisque en fait, quand vous êtes refusnik, vous allez quand même en prison plusieurs mois et vous êtes, il faut vraiment le vouloir, être dans un état de pacifisme avancé, si je puis dire. Et il y a eu quelques cas qui nous ont été donnés par Facebook ou par les réseaux sociaux depuis le 7 octobre. Peut-être qu'il y en a plus, mais l'État d'Israël se garde bien de le diffuser.
Il faut dire que c'est... Non, mais on reçoit des lettres directement du mouvement des jeunes réfugiés qui continuent, pour certains, à affirmer qu'ils ne vont pas faire l'armée, même en ce moment où tout le monde est derrière l'armée et qui font de la prison. Mais c'est vrai que ça représente... Pas beaucoup de monde.
Ou 2%, ou très peu. Hein,
bon,
très
on ne sait
peu.
Pas combien
on
de
On ne sait pas, mais très peu par rapport au nombre de jeunes qui rejoignent l'armée.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même très courageux.
Oui, très courageux.
Nous avions fait faire, Sonia et moi et quelques copines, une tournée de refusnik au début des années 2000 en France. Et c'était dans un climat beaucoup plus apaisé à l'intérieur de la société israélienne. Ils étaient très mal vus, ça c'est sûr. Mais c'était moins violent que ça l'est actuellement parce que toute la société se vit en guerre.
Absolument.
Donc on peut le dire, c'est d'un très grand courage. Ce sont des signaux faibles dans leur quantité, mais ce sont des signaux puissants dans leur qualité.
Et puis, il y a le mouvement de soutien tout de même à la Palestine. Alors, je ne parle pas du mouvement de soutien à la Palestine en général, mais animé par des organisations juives.
De la paix, non ?
Non, sûrement pas.
Non, mais des mouvements qui s'inscrivent.
Non, je parle des mouvements à l'étranger, comme nous, l'Union juive française pour la paix, comme Voix juive pour la paix aux États-Unis, Voix juive dissidente au Canada. Enfin, il y a plusieurs organisations juives qui sont regroupées d'ailleurs dans des fédérations et qui critiquent le sionisme et le comportement, la politique de l'État d'Israël et qui sont importantes parce que, par exemple, quand nous allons dans des manifestations, on voit beaucoup de gens qui applaudissent, ils disent « Ah, ben vous avez du courage », nous on dit « C'est pas spécialement du courage », mais ils trouvent que le fait que des juifs s'expriment contre la politique israélienne, c'est du courage et ça les renforce aussi, eux. Et ce qu'il y a, c'est que plusieurs organisations se voient un développement. Par exemple, cette organisation juive américaine qui s'appelle « Jewish Voice for Peace », Elle a recueilli énormément d'adhésions dans les dernières années, alors qu'elle avait commencé, il y a quand même une quinzaine ou une vingtaine d'années, modestement, mais elle s'est énormément développée. Elle fait beaucoup le lien avec le milieu religieux, mais un milieu religieux antisioniste ou asioniste, bon, il y a différents termes, selon que les gens sont plus ou moins radicaux dans leurs opinions sur le sionisme. Et cette association a regroupé énormément de monde avec des antennes dans plein de villes des États-Unis. Et on sent que l'opinion juive américaine est en train d'évoluer beaucoup plus qu'en France, où en France, la population juive, enfin, on est très mal vu, nous, par les communautés juives en France, qui sont massivement derrière Israël, sous la houlette du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui est un organisme qui est comme une antenne du gouvernement israélien en France et qui a l'écoute attentive du gouvernement français.
Et on a mis donc dans nos annexes, on a mis la charte de GVP, de l'UJFP bien sûr, mais de GVP. Pour donner aux Français, enfin dans la langue française, l'engagement de GVP, qui est maintenant déclaré antisioniste comme nous et qui a eu un long parcours pour arriver à se déclarer antisioniste.
D'accord.
Parce que c'est pas évident,
non,
hein, pour des juifs. C'était plus facile de dire je ne suis pas sioniste, mais de se déclarer vraiment antisioniste, on voit que c'est un cheminement qui n'est pas évident. Qui n'est pas facile et pas évident.
Peut-être, puisqu'on arrive bientôt au terme de notre rencontre, quel type d'action mener en France pour soutenir et la résistance palestinienne et ceux qui, en Israël, refusent l'idéologie dominante du gouvernement israélien ? Alors, il y a les boycotts de produits, il y a des choses comme ça.
Il y a des actions qui sont conçues pour affaiblir Israël. Donc, effectivement, le mouvement boycott des investissements sanctions, où il y a d'abord le boycott des produits divers que les personnes achètent dans les magasins. Mais il y a aussi le désinvestissement, et ça, dans plusieurs pays, des fonds de pension ou des différents fonds financiers ont désinvesti de leurs possessions et de leurs partenariats en Israël. Et il faudrait que ça se développe encore plus si on veut que ça ait une influence. Et puis les sanctions, c'est ce qui est attendu de la part des gouvernements, de la part de l'ONU, et que beaucoup réclament à l'heure actuelle en demandant au moins le cessez-le-feu et plus la levée du blocus de Gaza, le droit au retour des Palestiniens, mais qu'ils sont chaque fois bloqués par le veto des États-Unis. Mmh. Et ça, c'est très difficile à l'heure actuelle. Bon, ça, c'est pour les actions, dans les pays étrangers, pour soutenir les Palestiniens contre le sort qui leur est fait par Israël. Mais il y a aussi faire connaître largement les voix dissidentes d'Israël, et ça, on invite des personnes à parler en France ou dans d'autres pays également. Elles ne sont pas toujours bienvenues. Par exemple, Salah Hamouri, qui est un avocat franco-palestinien qui a été expulsé d'Israël il y a quelques mois, Il a été invité dans plusieurs endroits pour faire des conférences et plusieurs fois, les salles ont été refusées par les mairies, par les préfectures, donc avec beaucoup de difficultés à s'exprimer. De la même façon, en Allemagne, l'Allemagne est vent debout avec Israël et réprime fortement les expressions de soutien à la Palestine au nom de la responsabilité historique de l'Allemagne dans le génocide des Juifs. Donc on ne peut pas critiquer Israël. Et en Allemagne, c'est très différent. Alors qu'il y a beaucoup d'émigrés, de réfugiés palestiniens d'abord, israéliens aussi. Il y a beaucoup d'opposants israéliens qui vivent en Allemagne. Et il y a eu une immigration en Allemagne syrienne très importante de gens qui soutiennent la Palestine. Donc voilà, il y a des choses qui sont assez variées sur ce registre.
Et puis il y a une autre forme d'aide, c'est une aide politique qu'on apporte notamment à l'Union juive française pour la paix. On travaille avec les paysans de Gaza, on travaillait et on travaille encore d'ailleurs pour leur permettre d'avoir une autonomie alimentaire.
C'est ça.
Alors on avait aidé à la construction on avait trouver les fonds pour les aider à construire un château d'eau, une pépinière, faire les irrigations, avoir l'autonomie électrique avec des panneaux solaires. Mais tout a été détruit pendant cette guerre. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est une aide plus humanitaire, alors que notre point de départ, c'était faire une aide politique. Mais là, on les aide pour avoir des refuges, des tentes.
Survivre.
Pour les aider à survivre, des tentes, des vêtements, de l'alimentation. Voilà, donc ça me paraît aussi important comme soutien au peuple gazaoui et plus largement au peuple palestinien.
Et puis, globalement, il y a aussi l'interpellation du gouvernement français qui, dans cette histoire, a pris parti.
Oui. Ah ben, complètement.
Ils disent, inconditionnellement.
C'est ça.
C'est un allié d'Israël de premier plan.
Oui. Ouais.
Donc, écoutez, on va s'en tenir là, sauf si vous avez encore quelque chose à ajouter.
Cessez-le-feu.
Cessez-le-feu,
tout de suite.
Tout de suite.
Donc, on va s'en tenir là. Je vous remercie, Béatrice et Sonia. Et puis, dire aussi qu'à Millau, il y a des militants du JFP avec lesquels vous pouvez prendre contact via le collectif Palestine 12, si vous souhaitez travailler en lien avec cette association. Eh bien, merci beaucoup.
الجبل أعلى من العالي مفتاح درب الأمل والأمل برجالي يا شعبنا يا بطل أفديك بعيني
snap. This is the story of violence and hate, whose seeds were sown before 1948. A vile, bloodthirsty, killing machine, whose victims are the people, yeah, Palestine. Shine a light, speak of the thief, speak of the settler, speak of the jackboot uniformed gangster, speak of the lies and the two-state illusion, speak of the forked tongues and Western collusion. Make it right, make a fist stand tall and rise, cause this ain't no racist paradise. In the name of the Nakba, the Naxa, Sabra and Shatila, I will sing my thousand.